Et on va lire un texte dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 8. Philippiens chapitre 4 verset 8. Le verset apparaît à l'écran et on va le lire ensemble. Nous avons parlé il y a quelques semaines de ces œuvres de la chair qui font du mal, qui font tellement de dégâts. Nous avons également parlé la semaine dernière de l'attitude de Joseph qui, à contrario, a apporté une bénédiction à toute sa famille. Et là, je voulais quand même revenir là-dessus parce que ça fait aussi partie de ces armes de destruction massive, la critique. Donc, Philippiens, chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. » Vous dites amen ? Amen. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la critique, mais je pense que c'est un peu inutile parce que chacun sait ce que c'est. Hein. Vous savez ce que c'est, la critique ? Soit vous l'avez pratiqué, soit vous l'avez subi. Mais vous savez ce que c'est la critique. Donc on n'a pas forcément besoin de bien en parler. La vérité, c'est que c'est encore une facette de notre cœur humain. C'est encore une facette de notre caractère. Et j'ai pas la télécommande. Mais à avancer de là-bas, il y a pas beaucoup de diapos. Il y a juste à avancer, il y a deux diapos. Je réalise que la critique... C'est quelque chose qui est très impulsif. Ça démarre quelquefois au quart de tour, sans même qu'on ait bien tout compris, tout réalisé. La critique, c'est intrépide. Hein. C'est totalement irrévérencieux d'ailleurs. Ça se moque de qui est en face, etc. Ça balance comme ça. Et ça fait beaucoup, beaucoup de tort. Je crois que la critique est assez insoumise d'ailleurs, même à notre propre volonté. Quelquefois, c'est plus fort que nous, ça devient incontrôlable. Voilà pourquoi je vous signalais que ça m'apparaissait comme une arme de destruction massive, mais qui ne dit pas son nom. Ça ne dit pas exactement jusqu'où ça peut aller, mais ça peut faire beaucoup de dégâts. Un homme un jour avait été calomnié et critiqué, c'est un peu la même chose, et notamment par une personne qui était sa bête noire. Et ça avait fait beaucoup de dégâts dans l'église, dans la ville, dans l'environnement, tout autour, etc. Et celui qui avait été critiqué à tort, était bien malheureux de la situation, mais difficile de renverser la chose. Et puis un jour, il s'est passé un miracle. La personne qui avait tellement critiqué, qui avait eu une parole dure, qui avait été sévère, cette personne-là a été convaincue de péché. Convaincu de son erreur. C'était les chrétiens, tout cela. Convaincu de son erreur. Donc, il a demandé pardon à Dieu, mais il fallait aller demander pardon à la personne qui était concernée. Et il a été trouvé cette personne qui, quand elle a ouvert la porte, a un peu frémi en voyant son persécuteur en face de lui. Et très rapidement, cet homme a pleuré et a expliqué que jamais il aurait dû faire ça, il avait eu tort, c'était terrible ce qu'il avait fait, pourquoi il avait agi de telle et telle manière. Bref, et il demandait pardon, il ne s'excusait pas simplement, il demandait pardon, il voulait qu'on lui accorde le pardon. Alors il a fallu travailler à cela, évidemment, ils ont discuté un bon moment, et en fin de compte, celui qui avait fait du tort a dit « Mais qu'est-ce que je pourrais faire maintenant ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me racheter ?» Qu'est-ce que je dois faire pour rattraper ce que j'ai fait ? Et l'autre, avec un peu de fatalisme, lui a dit « Viens voir, ça risque d'être difficile. » Et il l'a amené devant une fenêtre, il a ouvert la fenêtre. Il a pris un petit oreiller qu'il avait. À l'époque, il y avait des plumes dans les oreillers, c'était pas du synthétique, hein, des fibres. Donc il a déchiré l'oreiller, il a secoué, et vous imaginez que les plumes elles sont parties. Hein. Et il lui a dit « Maintenant, va les rechercher. Il les faut toutes. » Et l'autre lui a dit « Mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. » Ben, c'est exactement la même chose avec ce que tu as fait. On n'y arrivera jamais. C'est parti. Tu peux essayer. mais je crains que tu récupères jamais tout. » Je pense qu'il a bien retenu la leçon. Je pense que ça a dû être dur à avaler tout de même. Donc, c'est une arme qui fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, on aurait tort de vouloir l'utiliser. Quand la Bible nous dit qu'on a des armes défensives et offensives pour annoncer l'Évangile et proclamer la vérité, ça part jamais dans ce domaine-là, ça part jamais dans ce sens-là vers la critique. C'est une arme qui peut vous exploser en pleine figure et qui vous fera beaucoup de tort. Il y a quelques exemples comme ça dans le Nouveau Testament, la diapo d'après, notamment par rapport à cette rencontre que Jésus fera avec la Samaritaine. Vous vous en souvenez, hein ? Jean chapitre 4. Jésus rencontre cette femme au bord d'un puits, mais il la rencontre seule. Pourquoi donc ? Parce qu'il a pris soin d'envoyer ses disciples au village chercher à manger. Et je dis qu'il a fait exprès d'envoyer ses disciples chercher de la nourriture loin. Il voulait être seul pour avoir une discussion profonde avec cette femme. Quelques moments après, les disciples reviennent. Et la Bible dit ceci, je vous le cite, Jean chapitre 4, verset 27. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi lui parles-tu » Ils ont été étonnés, dans le sens que ça les a choqués. Ils ont été un petit peu ébranlés. Et cette amitié, si vous voulez, entre guillemets, hein, avec cette étrangère, le fait d'avoir simplement discuté avec elle, déjà c'était une femme et en plus c'était une étrangère, c'était une samaritaine, il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains, et ils se détestaient un peu beaucoup passionnément, donc ça n'allait pas du tout. Et quand ils voient que leur maître discute avec cette étrangère, ils sont littéralement bousculés au-dedans d'eux, ça leur déplaît profondément. Il voit là quelque chose d'assez douteux. Et vous savez, entre le moment où l'un et l'autre va dire, et vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il fait cela? Mais je comprends pas, mais c'est bizarre, etc. On n'est pas loin de la critique. Hein. On n'est pas loin de la critique. Je crois que, finalement, ce qu'ils vont vivre, ça nous est certainement arrivé à beaucoup. Ils vont réfréner un petit peu leur malaise parce qu'ils ne vont rien dire. Qu'est-ce que vous voulez dire à Jésus? S'il y a quelque chose qui se passe et qui ne va pas dans le sens que vous voulez, est-ce que vous allez vous-même dire à Jésus, « Écoute, Jésus, on a un problème là, j'apprécie pas du tout ce que tu fais. » Qui va lui dire ça? Il n'y en a pas un de nous qui va oser lui dire ça. Pas un de nous. Hein. Donc on s'est tu, on n'a rien dit. Sauf qu'on l'a quand même pensé. Et ils l'ont pensé si fort qu'on l'avait presque entendu. Il y a des fois des regards, vous n'avez pas besoin de parler. « Ah, j'ai rien dit. Hein. » Ouais, mais vu comment tu réagis... C'est comme si tu l'avais dit, hein. Non, tu fais ce que tu veux, hein. Ouais, mais visiblement, ça te plaît pas, je dis rien. Mais on critique au-dedans de nous, on n'est pas content, on n'est pas satisfait, c'est pas bien ce qui se fait, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, etc., etc. Alors, là où je veux vous emmener, c'est que ces gens-là, finalement, ils vont critiquer avant de comprendre qu'est-ce qui venait de se passer. Il voit juste Jésus qui vient de terminer sa discussion avec cette femme. Cette femme s'en va d'ailleurs, elle reste pas, elle court au village. Mais quand elle va aller au village, elle va s'adresser à tous ceux qui sont dans le village en disant « Venez voir un homme qui m'a raconté toute ma vie, qui a raconté tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ?» Elle va rendre témoignage de ce qu'elle vient de vivre. Donc visiblement, la conversation était bonne, hein. Visiblement, ça a été une pêche miraculeuse. Ça a été une belle action qui s'est accomplie. Mais eux, ils ne le savent pas. Les disciples, ils ne le savent pas. Et ils ne cherchent même pas à savoir. Avant de critiquer, avant de critiquer l'action d'un frère, d'une sœur, posez-vous d'abord la question, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ça évitera peut-être la critique. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Avant de critiquer, cherchez à comprendre. Allez au fait, allez discuter. Et si ses disciples avaient dit, j'ai une question, pourquoi tu lui as parlé? Je pense qu'on aurait évité certainement un jugement, certainement. On aurait été un peu réservé dans la manière de réagir. Finalement, je crois que ce qui évitera certainement la critique bien souvent, c'est de regarder la situation dans son ensemble. C'est souvent parce qu'on a le nez sur une partie du problème qu'on réagit mal. Quand on recule, on fait deux pas en arrière, on dit bon, on se calme, on va voir un petit peu les tenants, les aboutissants, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Tout de suite, on voit les choses différemment, logiquement. Mais c'était quoi la leçon de cela? Ce que les disciples ne voient absolument pas. Quand ils reviennent, ils ont ramené à manger. Et ils vont dire à Jésus, mange. On t'a ramené à manger. Est-ce que tu veux pas manger quelque chose maintenant? Et Jésus va leur dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples sont un petit peu vexés. Et ils disent, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ils comprennent rien. Jésus est venu accomplir la volonté de son Père. C'était ça sa nourriture. Et quand il dit, j'ai à manger une autre nourriture, mais que vous ne connaissez pas, eux sont restés sur le pain, le fromage, ou ce qu'ils ont récupéré, peut-être quelques figues et d'autres produits comme ça. Ils ne sont pas du tout dans le côté spirituel des choses, ils sont juste dans le côté très humain, très matériel. Alors Jésus va leur expliquer, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, et d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. En fait, ils critiquaient parce qu'ils ne s'étaient pas posé la question, pourquoi Jésus a parlé avec cette femme? Est-ce qu'il voudrait la sauver par hasard? Est-ce qu'il voudrait l'amener au salut, elle également? Est-ce que le salut peut quand même toucher des étrangers? Est-ce qu'ils ont droit à être sauvés aussi? Ça, c'était des bonnes questions. Seulement, ils n'ont pas posé ces questions-là. Oui, ils ont été directs sur ce qu'ils ont vu de leurs yeux, et ça les a amenés à la critique. En fait, Jésus était venu sauver même les femmes, vous vous rendez compte? Ouais. Et même les femmes samaritaines, même les étrangères. Il y avait une part pour elles également. En fait, quand Jésus a vu arriver cette femme, il n'a pas vu arriver une étrangère, une femme de mauvaise vie, une femme qui avait une vie assez compliquée. Non, il n'a pas, dans les premières remarques de cette femme qui va être agressive vis-à-vis de lui, pourquoi tu me parles? On n'a pas de relation, mais pourquoi tu fais cela? J'ai même pas de mari. Elle a même menti, vous vous rendez compte? Elle en avait eu 5. Et elle vivait en concubinage, hein. Donc, vous imaginez Jésus, on lui ment en face, comme s'il ne voyait pas le mensonge. Mais ça crevait les yeux. Hein. Vous vous rendez compte? Au lieu de la renvoyer en disant, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, tu es insouciante, c'est de la folie ce que tu es en train de faire. Non, il va l'amener au salut, parce qu'il était venu la sauver, elle aussi. Dans le fond, les disciples ne voyaient pas la moisson que Jésus voyait. Lui, il connaissait le nombre des perdus. Visiblement, les disciples ne connaissaient pas le nombre des perdus. Et lui voulait leur faire du bien. Il leur voulait du bien, ces perdus. Et les disciples, manifestement, ne leur voulaient pas du bien. Quand vous verrez la moisson, quand vous connaîtrez le nombre des perdus, et quand vous aurez décidé de faire du bien aux autres, je suis persuadé que vous ne critiquerez plus jamais. Non? À mon avis, ce sera impossible, parce que vous viserez le salut des perdus. Il y a un autre exemple. C'est les disciples, là aussi, avec la pauvre Marie, la sœur de Lazare, Marie de Béthanie. Vous savez que Lazare est ressuscité d'entre les morts, c'est un miracle que Jésus a fait. Et après, on organise un grand repas et Marie va être là. Et Marie va faire un geste incroyable. Je vous le lis, Matthieu 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ?» Moi, j'ai envie de dire, les disciples la critiquèrent. « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Ce que cette femme est loin d'imaginer, c'est que le parfum qu'elle est en train de répandre sur le corps de Jésus sera, dans le fond, le parfum de son embonnement, si vous voulez. Parce que quand on va le mettre au sépulcre, après l'avoir crucifié, on ne l'a pas embaumé, hein. On n'a pas pu le faire, c'était le début du Shabbat, on ne pouvait pas. Hein. Donc on est revenu le premier jour de la semaine, avec des aromates, avec des herbes, pour embaumer le corps de Jésus. Sauf qu'il est ressuscité, il n'est plus là. Mais ce n'est pas grave, il avait déjà été embaumé. Il avait déjà reçu ce parfum. Elle l'a fait pour ma sépulture. Eh oui. Dans le fond, ce que cette femme fait, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Vous imaginez, allez, est-ce que vous aimez le parfum ? Mesdames, messieurs, aujourd'hui, tout le monde aime le parfum. Jusqu'à quel prix vous êtes capable de mettre pour un flacon de parfum ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a le parfum, il y a l'eau de parfum, il y a encore autre chose. Hein. On dilue de plus en plus, hein, parce que c'est de plus en plus cher. Donc, jusqu'à combien vous allez mettre ? 50 euros ? 150 euros ? 1000 euros ? Purée, vous êtes riche. Hein. Parce qu'une fois que vous avez fait pchit, il ne revient plus. Hein. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Hein. Vous savez, à peu près, on a essayé d'estimer ça, combien valait ce parfum, ce flacon de parfum que cette femme avait, à peu près. Entre 25 et 30 000 euros. 25, 30 000 euros. Elle a gardé ça, parce que c'est une dot, c'est précieux. Je ne sais pas combien de temps il aura fallu pour qu'elle puisse se le payer, hein. Mais ça a dû prendre du temps quand même. Et là, elle a envie de faire pour Jésus quelque chose voilà, qui la dépasse en fait. Quelque chose qui ne soit pas juste un plat, juste une belle attention, mais quelque chose de grand, quelque chose de marquant. Alors elle réfléchit, puis elle voit qu'une chose. Hein. Ben, je vais donner ce que j'ai de plus cher. Elle aurait pu dire, je donne ma vie, oui, mais quelque part en faisant ça, c'était pas loin du compte. Hein. Alors elle va décider ça. Elle n'en parle pas, elle ne dit rien à personne. Et quand ils sont réunis dans la maison, elle casse, parce que ce n'était pas des vaporisateurs, hein, il n'y avait pas un bouchon à vis. Donc elle casse la collerette du flacon. Donc après, c'est fini. Hein. De toute façon, tout est perdu. Hein. Et elle va le verser sur Jésus. Est-ce qu'elle a eu raison de faire ça ? Qui peut en juger ? Il n'y a que elle qui peut juger de ça. Il n'y a que elle qui peut dire « j'ai eu raison ou j'ai eu tort ». Non ? Vous avez le droit de dire qu'elle a eu raison ou qu'elle a eu tort ? On n'a pas le droit de le dire. Hein. Qui peut en juger ? C'est elle. Qui peut savoir ce que ça coûte ? Même s'ils ont évalué ça à 300 deniers qu'on aurait pu donner aux pauvres, etc. On aurait pu faire tellement de sandwichs avec 30 000 euros. On aurait fait du bien, hein, pendant longtemps. Mais qui peut savoir qu'est-ce que ça coûte vraiment ? Je pense qu'il n'y a que elle. Hein. Qui a risqué gros ? Ben, c'est elle. Hein. Et qui, finalement, a tout dépensé ? Je crois que c'est elle. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas les disciples. On trouve toujours de meilleures causes à défendre que des causes comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés dans cette discussion qui ne sert à rien ? Ça sert à rien. La seule chose qu'ils risquent, c'est de faire de la peine à cette pauvre femme. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait quelque chose d'extraordinaire. On aurait dû tous se réjouir plutôt que de râler, plutôt que de se plaindre, mais de critiquer, c'est nul. Elle aurait dû nous en parler avant, on lui aurait dit comment mieux dépenser son argent. Il y en a beaucoup qui vont vous expliquer comment bien dépenser votre argent. Ouais, il y en a beaucoup qui vous le diront. Mais là, cette femme, elle avait eu à cœur de faire cela. Elle l'a fait pour Dieu. Elle l'a fait pour l'œuvre de Dieu. Elle a fait même un geste prophétique, vous imaginez ? Elle était loin de s'en rendre compte. Donc, ils n'avaient pas le droit de critiquer. Et comme a dit un jour quelqu'un, la critique est facile. Hein, ben, l'art est plus difficile. Et ouais, c'est toujours facile de critiquer. Pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi ? Au lieu de critiquer, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et après, les autres te critiqueront. Et après, tu vas en prendre plein la tête. Et après, tu diras, c'est fini, je critique plus. Mais il faut faire quelque chose, plutôt que de toujours râler sur les uns, sur les autres, etc. Finalement, c'est arme de destruction massive, je crois. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tort que Dieu nous donne d'être vainqueurs sur aussi ce sentiment-là. Et je termine avec les amis de Job, parce que les amis de Job, vous les connaissez, ils sont trois. Quand Job a connu son malheur, ils sont trois à être venus lui rendre visite. Ils ont trois amis. Hein. Ils ont tellement été choqués par ce qu'ils ont vu que pendant une semaine, ils n'ont même pas ouvert la bouche. C'est dommage qu'ils ne soient pas repartis tout de suite après. Parce que quand ils ont ouvert la bouche, mamma mia. Alors là, ça a été dur. Hein. Ça a été dur. Hein. Vous pourrez le relire dans le fond parce que le livre de Job n'est pas très long. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que je suis persuadé qu'ils sont venus dans de bons sentiments. Je suis persuadé que quelquefois on est animé de bonnes intentions, mais qu'est-ce qui dérape pour qu'à un moment donné ces bonnes intentions se transforment en un réquisitoire, en une cour de jugement? Qu'est-ce qui se passe? Ce pauvre Job a vécu tous les malheurs, il a perdu des enfants, il a perdu ses biens, il a perdu la santé. Finalement, il lui resterait qu'à mourir. Il n'a pas envie de mourir, il a envie de servir Dieu jusqu'à la fin. Quelle qu'en soit la fin. Et ses amis vont essayer, pendant des chapitres et des chapitres, mais vous en avez pour des dizaines de chapitres, vont essayer de lui expliquer que s'il est dans cet état-là, c'est parce que c'est un pécheur. C'est parce qu'il est pécheur. Et comme tout pécheur, on subit finalement la condamnation. Mais il faut quand même reconnaître que lui, il en a une sacrée couche sur le dos, hein. Eux, visiblement, ils vont eux-mêmes se définir comme pécheurs, mais apparemment, ils passent entre les gouttes. Hein. Ils ne sont pas aussi atteints que lui. Et Job se défend, comme il peut. Mais qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, disent certains. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'en suis là? Mais pourquoi de telles choses m'arrivent? Et ça va être une lutte entre ces trois-là et Job. D'ailleurs, même Job, à un moment donné, finira par dire « Vous êtes des consolateurs bien fâcheux. Hein. » Bien fâcheux. Je ne comprends pas ce qui vous anime. J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Le fait est que Job s'est défendu. Il dira même, mon rédempteur est vivant. Un jour, il se lèvera, le dernier sur la terre, et je le verrai face à face. Et vous verrez que vous avez eu tort de me critiquer. Sauf que, pécheur, il l'est. Mais comment vous voulez faire du bien à cet homme? Est-ce que c'est en lui disant « Regarde, tu es pécheur, regarde comment tu es, repens-toi. » Il n'arrive même plus à ouvrir la bouche. Croyez pas qu'il vaut mieux l'encourager au point où il en est rendu, le pauvre Job? L'encourager, ce n'est pas le justifier. L'encourager, c'est juste l'aider à passer l'épreuve, juste l'aider à être accompagné dans l'épreuve. Et la critique fait tout sauf ça, hein. Elle n'encourage pas. La critique, elle démolit logiquement. La critique, elle devrait faire les deux, mais elle n'est jamais impartiale, jamais. Et donc là, elle fait beaucoup de tort. Finalement, il croyait le persuader que tout était de sa faute et que c'était lui le seul responsable. Et manifestement, ils n'avaient pas lu Job chapitre 1er où on parle de Satan. Manifestement, ils ne l'avaient pas lu ça. Donc effectivement, ça tombe sur lui, mais il n'est pas le seul responsable de ce qui lui arrive. Évidemment, le diable est derrière ces calamités qui lui tombent dessus. Alors Job va résister tant qu'il pourra. Il va résister. Il va résister d'une manière incroyable. La diapo d'après, excuse-moi. J'avais pas suivi, ouais. Finalement, il va leur résister. Et puis, on arrive vers la fin du livre de Job, chapitre 32. Et là, les trois amis ont plus d'arguments. Ils ont tout dit à Job, tout ce qui leur passait par la tête. Et Job, il s'est défendu pied à pied, il a défendu son terrain comme il l'a pu. Et à un moment donné, silence des deux côtés. Les agresseurs savent plus quoi dire. Le défenseur a plus rien à exposer. Il semble qu'il ait tout dit. Et là, vous avez un personnage qui arrive. Vous savez pas d'où il vient. Il sort de nulle part, celui-là. Il arrive, il s'appelle Élihu. Et je voudrais qu'on lise ensemble, on terminera avec cela. Je voudrais qu'on lise ensemble ce que Élihu va dire. C'est quand même assez incroyable. Élihu, chapitre 32. Job, chapitre 32, verset 2. Bon, verset 1er, ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors, s'enflamma la colère d'Élihu, fils de Barakil, de Buze et de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme Ils étaient plus âgés que lui. Élie avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élie s'enflamma de colère. Et Élie prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute. Moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé de la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondront plus, ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi, je veux aussi dire ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point d'égard à l'apparence. Je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. » Et vous en avez encore pour quelques chapitres. Au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ils ont gardé le meilleur pour la fin. Parce que ça part fort quand même. Alors lui, il critique tout le monde. Il critique les trois qui n'ont pas été assez persuasifs. Et il critique Job, qui n'a cessé de se déclarer juste. Et là, on se dit, mais vous le placez où, celui-là? Et quand vous lisez, au fur et à mesure que vous lisez, il vous apparaît quelque chose d'incroyable. Totalement incroyable. C'est que cet homme va critiquer l'attitude de ses trois amis en disant « J'ai bien écouté, vous avez vu, hein, j'ai bien mesuré, j'ai pris soin d'entendre tout ce que vous avez dit, etc. Et je m'aperçois que tout ce que vous avez dit est faux, c'est pas la stricte vérité. Il y a de la vérité, mais c'est pas la stricte vérité. Et puis j'ai bien écouté, toi, Job, tout ce que tu défends. Évidemment, tu contrecarres les accusations qui te sont lancées, mais tu n'as pas raison quand même. » Et en fait, il est en train de dire à tous qu'ils avaient tort, mais ce que personne n'avait fait jusqu'à maintenant, Job se défendait, les hommes le critiquaient, mais personne n'avait encore évoqué la place de Dieu dans cette affaire. Et c'est ce que Élie va faire. Il va remettre Dieu dans la discussion. Il va remettre Dieu dans l'histoire. Il va remettre Dieu dans l'événement. Et voyez-vous, les critiques s'arrêtent quand on remet Dieu dans l'histoire, quand on remet Dieu dans l'événement, quand on remet Dieu dans la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il parlera de la grandeur de Dieu. Il parlera de la bienveillance de Dieu. Il parlera de la miséricorde de Dieu. Mais il parlera du péché de Job. Il dira, Job, tu es pécheur toi aussi. On est tous pécheurs. Et Dieu se glorifie d'une manière ou d'une autre. Et en substance, il est en train de lui dire, Dieu a choisi ce chemin pour toi parce qu'il veut se glorifier au travers de ce chemin-là. Bah, il est dur, hein? Il est franchement difficile, mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Mais je peux juste te dire que Dieu sait ce qu'il fait. Et que si Dieu a choisi ce chemin-là, c'était qu'il se glorifierait au-delà. Regardez, et on va juste entendre ce qu'il va dire au chapitre 33, par exemple, à partir du verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Il parle par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, etc. Et puis un peu plus loin, verset 19, « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. » C'est le cas de Job. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais, et ça les autres ne l'ont pas dit, s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui. Et dit à l'ange, délivre-le avant qu'il ne descende, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. On croirait entendre parler de la croix. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle. Car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » Il n'est pas là en train d'accuser Job. Il est là en train de l'encourager. Si vous lisez bien le texte, il est là en train de l'encourager. Alors la conclusion, vous l'avez au chapitre 42. Dieu va s'adresser à Job, et Dieu va s'adresser aux trois premiers amis. Et Dieu va dire à l'un des trois, Eliphaz, « Tu vas aller trouver Job. » Et tu vas aller lui demander qu'il prie pour vous trois. Parce que si je n'avais pas eu égard à Job, je vous détruirais tous les trois pour ce que vous avez fait. Tous les trois. C'est la prière de Job qui effacera votre dette, qui effacera votre péché et qui vous relèvera. Amen. Ils ont été trouvés Job, Job a prié pour eux et ils ont été relevés et Job a été relevé lui aussi. Il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. D'une autre manière, puisque les enfants qu'il a perdus n'ont pas ressuscité, mais il en a eu d'autres. Et puis, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on ne parle pas d'Élihu, ni en bien, ni en mal. Il apparaît comme ça, et il s'en va. Est-ce que le Saint-Esprit n'aurait pas cette capacité de nous toucher encore? On ne le critiquera pas, ni en bien, ni en mal, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, mais il vient modérer nos jugements. Il vient calmer nos ardeurs et il nous donne d'avoir un regard beaucoup plus objectif. Frères et sœurs, c'est certainement un des derniers volets que l'on verra ensemble concernant la nature humaine. On a parlé des jalousies, de tout ce que ça engendre. Ben, la critique, c'est un pack, hein, ça en fait aussi partie. Et il y reste un exemple à suivre. On entend, on examine, on voit. La Bible dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de vos louanges, soit l'objet de mes pensées. Amen. Que ce soit ça pour chacun d'entre nous. Et nous ferons du bien, certainement, nous ne ferons pas du mal, parce que nous aurons pris le recul nécessaire pour comprendre pourquoi il a fait ça, pour comprendre pourquoi elle a dit cela, pour comprendre pourquoi il ou elle a agi de telle et telle manière, et Dieu sera glorifié. Amen. On se lève ensemble. Et on va prier. Demandez à Dieu sa grâce, qu'il nous raccompagne et qu'il nous bénisse. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ta fidélité. Je te loue parce que tu es précieux, je te loue parce que tu es merveilleux, je te loue parce que nul n'est comme toi. Je te rends grâce pour ce que tu as fait, je te rends grâce pour ce que tu feras encore, je te rends grâce pour ta bienveillance. S'il te plaît, étends ta bonne main au nom de Jésus. Et manifeste ta gloire. Étends ta main sur nos vies, sur nos cœurs. Manifeste ta gloire. Et bannis de nos bouches la critique. Bannis de nos cœurs la critique. Bannis de nos vies ce sentiment, cette impression de jugement continuel. Délivre-nous de ces choses-là. Et glorifie ton nom dans l'Église. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait avec chacun de mes frères et sœurs. Ce que tu feras encore. Parce que la vie avec toi, elle réserve de belles surprises. Continue ton œuvre et remplis-nous de ton esprit afin que nous te plaisions. Si nous avons des torts, des choses à nous reprocher, que nous puissions venir à genoux devant toi pour te réclamer ton pardon, ta grâce, et transforme notre cœur et rend le meilleur pour ta gloire. Amen.